Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour une émission où nous allons partir à la rencontre d'un auteur et penseur chrétien du XXe siècle, dont nous avons commémoré en 2025 le 70e anniversaire de la mort, Pierre Teilhard de Chardin, à la fois père jésuite, chercheur, géologue, paléontologue, théologien et philosophe. Tout ce numéro est consacré à la vie et l'œuvre de ce personnage fascinant, ainsi qu'au groupe de lecture qui lui est dédié à l'Institut catholique de Toulouse. Le groupe de lecture dédié à Teilhard de Chardin est animé par Joseph Merlet, qui a accepté de participer à cette émission pour nous parler de son auteur de chevet, également présent dans ce studio, Denis Abvril, membre du groupe de lecture. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation à Vivante Église.
Merci de nous recevoir.
Avant de parler de Teilhard, de sa vie et de son œuvre, nous allons parler de vous. Pour commencer, si vous le permettez, comment l'avez-vous découvert et pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui? Est-ce que c'est Teilhard qui est venu à vous ou est-ce que c'est vous qui êtes venu à Teilhard? Denis Abvril.
Un peu les deux. Parce que pourquoi je me suis intéressé à Teilhard? Tout d'abord, lorsque j'avais entre 10 et 13 ans, ma mère lisait beaucoup Teilhard de Chardin. Et j'étais un peu intrigué par le fait qu'elle avait ces livres-là où il y avait des annotations dans toutes les pages, des petits papiers qui dépassaient, etc. Et ça avait l'air de beaucoup l'intéresser. Et puis, elle est décédée malheureusement jeune. J'ai revu ces livres-là, mais j'avais pas le temps de m'y plonger. Et puis, il y a quelques années, j'ai vu une émission qui parlait de Teilhard. Et vraiment, là, je me suis dit, il faut que je m'y remette. Et j'ai commencé à lire. Je suis allé sur le site de l'Association nationale et j'ai appris qu'il y avait une association toulousaine. Et voilà pourquoi je suis là.
Joseph Merlet.
Dans les années 70, quand j'étais étudiant, Teilhard était, disons-le, un peu à la mode. Et donc, à l'époque, j'ai pas vraiment creuser le problème, mais arrivant à la retraite, je me suis dit, je vais regarder un peu plus près Teilhard. Et j'ai eu la chance de faire un pèlerinage avec le père Poirier. Et dans le groupe de pèlerins, il y avait Jean-Claude Massip, qui lui-même animait le groupe de lecture à l'époque. Donc, il m'a embarqué dans ce groupe de lecture. Et donc, je suis dans ce groupe de lecture depuis que je l'ai rencontré.
Donc, groupe de lecture qui était préexistant, auquel vous vous êtes agrégé l'un et l'autre, si je puis dire. Est-ce que vous êtes scientifique de formation?
Ah, moi, oui, une formation essentiellement scientifique, oui.
Joseph Merlet également,
aussi,
et
oui.
Et puis, chrétien aussi, depuis toujours?
Oui, depuis toujours, catholique pratiquant, avec toujours, on se pose toujours des questions et on évolue, c'est pour ça qu'on lit de tels auteurs.
Vous aussi, Joseph Merlet. Hein.
Tout à fait. Je suis tombé dans la bassine petit, je me suis un peu débattu, hein, comme tout le monde.
Comme d'autres.
Voilà. Et puis, avec le temps, j'ai cherché à creuser. J'ai fait quelques études de théologie, comme ça, à l'ICT. Et puis, donc, je suis penché sur Teilhard. Alors, et je suis tombé dans Teilhard.
Je vous poserai peut-être la question, mais un peu plus tard dans cette émission, si la découverte de la pensée de Teilhard et sa pratique, si je puis dire, a changé votre rapport à la foi, ou en tout cas, a peut-être affermi ou a ouvert d'autres pistes. Parmi nos auditeurs, je suppose que certains connaissent sans doute le nom de Teilhard de Chardin, mais beaucoup ne doivent guère en savoir plus. Je vais donc vous demander d'abord de nous présenter l'homme et ce que fut sa vie, parce que rien que sa biographie mériterait une émission entière. On va essayer d'être synthétique.
Oui, alors effectivement, sa vie mériterait une émission entière, parce que c'est un homme qui était très engagé et à qui se sont imposées des idées très tôt, pendant la guerre 14, pendant qu'il était dans les tranchées comme brancardier. Et donc, il a eu des éclairs de génie, et qu'après, il a creusé au fur et à mesure. Et donc, il a écrit un certain nombre d'essais, puisque ces documents n'ont jamais été publiés de son vivant. Et donc, il n'a pas eu vraiment de... À part un épisode bien précis, si jamais on en parlera, là, qu'on appelle communément le Concile de Carmaux, mais à part ce passage-là, ce sont des essais, ce sont des documents qu'il a écrits, qu'il a mis directement sur papier sans avoir vraiment de retour. D'ailleurs, dans certaines lettres qu'on a lues ensemble avec Denis, par exemple, il s'en plaint. Donc en fait, il est né en 1881.
Voilà, c'est important de le resituer dans le temps, tout de même.
Absolument. Dans le Puy-de-Dôme, hein, près de Clermont-Ferrand. Il est rentré chez les jésuites à 18 ans. Il a prononcé ses vœux à 20 ans, ses premiers vœux religieux. Il avait une formation de scientifique, ce qui lui a permis d'être professeur au Caire pendant 3 ans. Ensuite, il est parti, il est obligé d'aller en Grande-Bretagne pour faire ses études de théologie parce qu'il y a eu des problèmes avec la République française. Donc il a fait ses études à Hastings en particulier. Donc là, il a eu une formation de langue anglaise, ce qui lui a permis plus tard de s'exiler, de ne pas avoir de problème, au moins de ce point de vue-là. Il a été ordonné prêtre en 1911 et il a participé, comme j'ai dit tout à l'heure,
à la Première Guerre mondiale.
Voilà. En tant que brancardier sur le front, et pour lequel il a des médailles, d'ailleurs. Il a fait sa thèse de paléontologie en 1922, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, sous la direction de Marcelin Boule, qui est l'homme qui a, on va dire, fondé la paléontologie en France.
Oui, il était directeur du laboratoire de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
C'est ça.
Marcelin Boule.
Exactement.
Bon, personnage considérable dans ce domaine.
Absolument. Et Marcelin Boule a travaillé avec l'abbé Breuil. Et l'abbé Breuil a été aussi, on va dire, professeur, d'une certaine façon, de Teilhard. Alors, Teilhard a fait énormément de missions, en particulier en Chine. Et ça, il faut en parler parce qu'on y reviendra peut-être, mais il a un rayonnement important en Chine. Teilhard est très bien connu parce qu'en fait, il a été le responsable des études sur le synanthrope. Donc, il a caractérisé le synanthrope.
L'homme de Pékin, ce qu'on appelle l'homme de Pékin aussi.
L'homme de Pékin, voilà.
Pour les spécialistes.
C'est ça. Pour les gens qui s'intéressent un peu, il a qualifié l'homme de Pékin comme un homo faber, c'est-à-dire l'homme qui maîtrise le feu et les outils. Alors, c'est démêlé avec le Vatican, on y reviendra sûrement, on fait qu'il a passé la Seconde Guerre mondiale en Chine, exilé en Chine, et puis ensuite il est revenu une petite période en France, mais il a eu des difficultés. Il n'a pas pu trouver vraiment de poste parce qu'on l'empêchait d'enseigner, hein, disons-le. Hein. Et il est donc retourné faire ses recherches à l'aide d'un financement américain. Et donc, il a vécu le reste de sa vie à New York. Et il est mort.
Il est mort à New York, d'ailleurs.
Voilà, le jour de Pâques.
En 1955, le jour de Pâques.
19 avril 1955.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on a donc commémoré l'an passé les 70 ans de sa mort. Qu'est-ce qui est au cœur de sa pensée et on va pouvoir en parler dès maintenant. Quels sont ses maîtres livres, ceux qui constituent les piliers de son œuvre? Celle-ci n'ayant été publiée, il faut aussi le dire, hein, qu'après sa mort.
Alors, les maîtres livres, on peut en citer quelques-uns. Surtout, le premier, le plus connu, c'est Le phénomène humain.
Qui paraît après sa mort, juste après sa mort.
Hein. Oui, grâce à sa légataire universelle. Malgré les efforts de Bruno de Solages et de Henri de Lubac, hein, qu'il faut citer, on ne peut pas ne pas les citer, hein, qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que ça passe, mais pour obtenir l'imprimatur. Et alors donc ça n'a pas été obtenu l'imprimatur, mais on a réussi à éditer le phénomène humain parce qu'on l'a fait sous la couverture d'un document scientifique. Et donc pour cela, sa légataire universelle, Jeanne Mortier, si je me souviens bien, elle a rassembler un ensemble de scientifiques pour faire un comité scientifique. Voilà. Et à partir de là, on a pu éditer, c'est elle qui l'a fait, elle a pu éditer tous ses documents, tout ce qu'il avait écrit sous cette égide d'un comité scientifique. Il a écrit aussi une chose intéressante pour le commun des mortels qui se lit bien, c'est Mon univers, document qui lui a été demandé par Bruno de Solages en 1934. Ça, il faut le souligner, et on en reparlera sûrement. Mon univers, c'est quelque chose de simple qui résume la totalité de sa pensée en cinq phrases simples. Le milieu divin, à noter aussi, ouvrage important, qui est un ouvrage spirituel. À noter pour ça le témoignage d'André Duplex, parce que André Duplex a...
Alors, rappelez qui est André Duplex, parce que tout le monde ne le connaît pas, évidemment. Hein.
André Duplex, alors... a été recteur de l'Université catholique de Toulouse, et puis il a été aussi secrétaire adjoint de la Conférence des évêques de France. Il a écrit trois livres sur Teilhard, André Duplex. Il a révélé dans un paragraphe de la revue Noosphère qu'il avait décidé d'être prêtre, jeune, André Duplex, et quand il a fait son séminaire, il y a eu un moment de doute, et son directeur de conscience lui a dit « Ah, j'ai quelque chose à vous donner tout de suite parce qu'il va y avoir quelque chose qui va nous tomber et on ne va plus pouvoir donner les documents. » C'est-à-dire que le directeur de conscience était au courant que le Vatican allait sortir le fameux monitum. Et donc, il lui a dit « Lisez-le maintenant. » Il lui a donné le milieu divin. André Duplex a lu le milieu divin en une nuit, dit-il. Et le matin, il a dit « Ma vocation est assurée grâce à... »
À la lecture de ce livre.
À la lecture de ce livre, donc c'est pas rien. Alors, une chose aussi incontournable, c'est la messe sur le monde. Le pape François, pour le centenaire de la messe sur le monde, est allé en Mongolie et a prononcé une messe dans le désert de Lourdos, là où Teilhard avait...
achevé sa messe sur le monde.
Voilà.
Alors, je parlais de ce qui est au cœur de sa pensée. Est-ce que dès l'apparition du phénomène humain en 1955, il y a tout? Est-ce qu'il y a toutes les bases et tous les grands axes de la pensée de Teilhard de Chardin? Et quels sont ces axes? Peut-être Denis April.
Oui, je crois qu'il faut d'abord quand même remettre un peu l'époque de Teilhard de Chardin.
Dans son contexte.
C'est le contexte de l'évolution de Darwin, c'est Einstein, donc la découverte de l'univers, des éléments de l'univers.
La physique quantique.
Voilà, il y a la physique quantique. Et tout ça l'a probablement aussi très inspiré. L'évolution, c'est la base, évidemment, de sa pensée, hein, et qu'on retrouve dans le phénomène humain, justement. C'est-à-dire qu'on a, dans cette évolution, qui est l'évolution à partir des qu'on appelle le Big Bang maintenant,
oui.
Alors que ça n'était pas connu comme ça à l'époque.
On n'employait pas ce terme.
Et c'était un peu ça, c'est-à-dire il dit, les premiers corpuscules sont apparus, puis après, petit à petit, ça s'est agrégé, ça a fait des molécules qui ont fait des pierres, qui ont fait des plantes et qui ont fait des animaux. Puis l'être humain.
Oui, je pense que c'est important vraiment de dire que l'évolution, pour lui, c'est le fondement de sa doctrine.
Absolument.
Et pour lui, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité qui ne peut pas être déniée.
C'est une constatation physique. C'est formel, c'est pas.
Voilà, on n'est pas dans la théorie invention. Pour lui.
Hein. Non, c'est pour lui, c'est
une évidence.
C'est
un scientifique, hein, donc il a mis tout à fait
dans les
explications scientifiques et tout. Quoi, donc, voilà. Et à partir de là, effectivement, c'est l'époque aussi où l'Église, la Vatican en premier, était plutôt contre. En disant que non, c'est Dieu qui a créé tout ça. D'ailleurs, le Big Bang n'est pas contraire à Dieu. Au contraire, ça peut prouver qu'il y avait quelqu'un avant. Quelqu'un, bon, ce terme est un peu dur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette opposition. Donc, en appliquant l'évolution, effectivement, que veut dire à ce moment-là la Genèse en une semaine? Bon, quand on a lu ça, et même tout jeune, on se dit, c'est une image, forcément, c'est quelque chose qui découle de l'Ancien Testament, où les gens n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a, et pour expliquer que l'on existe, c'était une très bonne image. Mais là où ça se complique, c'est Adam et Ève. Parce que s'il y a un premier homme, c'est qu'il ne vient pas de l'évolution. Donc là, il y a manifestement une opposition, et c'est tout ce qui a fait les difficultés de Teilhard de Chardin vis-à-vis de l'Église. Alors pour lui, l'homme est aussi issu de l'évolution physique, ce qui n'empêche pas une intervention qui fait que l'homme a une conscience, qu'il a une âme, etc. Et c'est là qu'il y a eu une opposition, et le phénomène humain est autour de ça, finalement. C'est qu'est-ce qu'il y avait dès l'origine? Est-ce qu'il y avait... Alors il utilise le dehors et le dedans des choses. Le dehors, c'est ce qu'on voit, c'est effectivement la molécule, l'atome, etc. Et là-dedans, il y a quelque chose à l'intérieur. Voilà. Alors là où ça a pu choquer, c'est qu'il l'appelle la conscience dès le départ. C'est vrai que la conscience dans l'atome, la façon dont nous, on appelle la conscience, c'est que ça ne correspond pas à ça.
Mais c'est-à-dire que pour lui, si j'ai bien compris, il y avait déjà des germes de conscience dès le départ.
Voilà. Alors conscience...
Comprenons-nous bien.
Minuscule. Et il appelle ça le dedans des choses. Oui. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas.
Dans la matière, il y a déjà de l'esprit.
Voilà.
Oui, c'est ça. Alors, il y a une trace de l'esprit.
Oui.
Alors, on peut discuter ou pas, c'est peut-être pas le bon terme, etc.
Mais ça lui parle d'anima, il ne parle pas de spiritus, je crois. Bon, on la rend dans des choses un peu complexes.
Il dit souvent esprit.
Oui.
Voilà. Oui, entre esprit, âme, matière, tout ça, il fait une liaison qui ne correspond pas forcément au terme qu'on utilise maintenant. C'est là où ça peut quelquefois être un peu difficile à lire. Je pense qu'il y a aussi qu'il savait qu'il allait heurter un certain nombre de gens dans l'Église, donc il a voulu montrer qu'il s'appuyait que sur quelque chose de scientifique et qu'il y avait une évolution... d'où il ne voulait pas mettre de théologie un peu esprit, alors qu'effectivement, il connaît très bien la théologie. Et donc, il essaye d'expliquer que dès le départ, il y avait ce qu'il appelle la conscience, qui est un peu le dedans des choses, et que bien sûr, ça se développe, et il n'y a rien à voir entre ce qu'il y a dans un atome et ce qu'il y a dans l'homme. Voilà, alors, je crois qu'il faut le voir comme ça.
En tout cas, la matière devient esprit pour lui.
Oui, alors
c'est ça, sexifiant.
C'est la suite. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion de dedans et de dehors, c'est qu'il explique que c'est général dans l'univers. Même aujourd'hui, dans la technique, on peut dire la même chose. Quand on voit un ordinateur de base, on voit l'écran et ça ne vit pas. Et ça se met à vivre à travers le logiciel qu'on a mis dedans. De la même façon, le principe important qu'il y a chez lui, c'est qu'il appelle ça la loi de complexité conscience.
Oui.
C'est-à-dire, c'est ça, je pense qu'il faut en parler. C'est-à-dire que pour lui, l'évolution, c'est grâce à l'union créatrice, hein, parce que c'est l'autre problème, eh bien, les choses vont en augmentant en complexité, et plus les choses deviennent complexes, plus il y a de la conscience à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on a de l'eau, on est au niveau minéral, on peut dire qu'il y a des traces peut-être, mais au fur et à mesure qu'on arrive avec les animaux, les végétaux, il y a quelque chose, les gens le savent maintenant, hein, les végétaux communiquent entre eux, les animaux, là, il y a longtemps qu'ils communiquent entre eux, et nous, on communique avec les animaux, et donc on voit bien que la complexité physiologique s'accompagne d'une complexité psychologique, hein, c'est minimum. D'où la fameuse loi de complexité conscience.
Et on va vers de plus en plus de complexité.
Voilà, c'est exactement ça. Alors effectivement, là où Teilhard fait de la prospective, parce qu'on arrive à la prospective là, c'est-à-dire que nous allons vers de plus en plus de complexité pour les humains. Cette complexité que l'on peut voir, c'est-à-dire que jadis, les royaumes, c'était des petits royaumes par-ci, par-là, et puis tout le monde se tapait dessus, tout ça. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. Les royaumes sont beaucoup plus gros, il y a des respects réciproques, il y a des mécanismes de régulation. On voit bien que c'est vrai, cette complexité croissance. Alors, ce que dit Teilhard là-dessus, pour ajouter, c'est qu'il dit cette conscience qu'il y a, eh bien, il y a une sorte de conscience dans les organisations humaines qui se mettent en place. Et donc, cette conscience dans les organisations humaines qui se mettent en place fait que l'humanité va être enveloppée par une sphère d'esprit.
Il parle de psyché, lui, d'ailleurs.
Ça oui, serait...
c'est une sphère de pensée humaine.
Une sphère de pensée humaine.
Après la biosphère, il y a ce qu'il appelle la noosphère.
C'est voilà, la noosphère, c'est
la
ça.
La noosphère qui serait une sphère de pensée humaine.
C'est ça, exactement. Alors, il faut rentrer dans la noogénèse. Alors, ça, c'est un peu compliqué.
Bon, c'est un peu compliqué. On ne va peut-être pas y aller parce que là aussi, je pense qu'il faudrait toute une émission pour...
Oui, à ce sujet, d'ailleurs.
Pour vraiment rentrer là-dedans de façon précise.
On peut dire que,
compréhensible.
Que l'Association nationale des amis de Teilhard de Chardin organise un colloque sur la noosphère, hein, au mois de mars.
Alors, après ce survol de la vie et de l'œuvre de Teilhard de Chardin, nous avons bien mérité de faire une petite pause dans cette émission. Ensuite, nous aborderons l'actualité de la pensée de Teilhard aujourd'hui et nous parlerons bien sûr du groupe de lecture que vous lui avez consacré et que vous animez à l'Institut catholique de Toulouse. En attendant, nous écoutons Lux Aeterna, Lumière éternelle, pièce chorale de Gheorghi Ligeti.
plaisance.
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec les deux invités de cette émission consacrée à Pierre Teilhard de Chardin. Je retrouve donc Joseph Merlet et Denis Avril, animateurs et membres du groupe de lecture dédié à l'œuvre du célèbre père jésuite, auteur entre autres du Phénomène humain, nous l'avons rappelé en première partie d'émission, première partie de numéro où nous avons fait un peu un tour rapide de ce que fut la vie de Teilhard et de ses livres principaux. Je voudrais qu'on aborde maintenant l'actualité de sa pensée. Est-ce que Teilhard de Chardin est encore lu et étudié de nos jours? Est-ce qu'on se réfère à lui? Et là, je parle de l'actualité de sa pensée en France, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde. Dans notre pays, il me semble qu'il était, en tout cas à un moment donné, passé de mode. Est-ce qu'on recommence à le lire aujourd'hui et à l'étudier? Joseph Merlet.
En fait, il est passé de mode, effectivement. Mais il y a toujours eu un fond important de gens qui sont intéressés par Teilhard. Alors, à ce sujet, il y a une association nationale des Amis de Teilhard de Chardin qui existe et qui a une activité importante. Et puis, cette activité, elle porte sur des colloques et des conférences et même des retraites animées par quelqu'un qui avait... par exemple, était ici plusieurs fois, Martin Pochon, par exemple,
d'accord,
qui est un Teilhardien. Et cette association, elle a une revue qui s'appelle Noosphère, qui est vraiment une revue de très très haut niveau, disons-le. Et puis au niveau français aussi, on ne peut pas passer sous silence le fait que les quatre diocèses de la région parisienne associés à la Compagnie de Jésus ont créé le centre Teilhard de Chardin sur le plateau de Saclay.
À Saclay.
Donc là, il y a une actualité importante. D'ailleurs, dans ce centre-là, il y a des conférences intéressantes sur l'IA, par exemple, et autres, sur ChatGPT et d'autres choses comme ça. À Toulouse, il y a une association toulousaine des Amis de Teilhard qui, effectivement, a travaillé. Alors, il faut quand même rappeler ça. Donc, nous avons fait par le passé, nous avons fait un colloque à Montauban en 2014 et nous avons fait un autre colloque à Toulouse. En 2021, le colloque de Toulouse avait comme sujet « Collapse ou métamorphose ». Donc, c'était bien la grande question. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, c'est bien une question de...
Très actuelle.
Très actuelle. On ne peut pas dire le contraire.
Alors, j'ai dit que vous avez rappelé qu'il était mort à New York, qu'il avait vécu la fin de sa vie aux États-Unis. Est-ce que, là, on a parlé de la France, un Teilhard de Chardin en France, est-ce qu'il est encore lu et étudié aux États-Unis? Est-ce qu'il est encore lu et étudié en Chine, où il a longtemps vécu?
Oui. La réponse, c'est oui. La réponse est oui, parce que des associations, il y en a dans le monde entier, dont une aux États-Unis.
Très active.
Qui est très active. Et il y a eu une rencontre, il y a eu une rencontre en 2023, au moment des 100 ans de Mai sur le Monde, une rencontre à New York sur Teilhard, entre les Français et les Américains. En 2025, il y a eu une colloque à Florence aussi sur l'humanité nouvelle. La vision teilhardienne d'une formation d'une société. Donc, on est là sur comment la noosphère peut se mettre en place. Voilà, c'est en 2025.
Et en Chine?
En Chine, il y a aussi une activité de recherche, oui, parce qu'il a laissé des traces, puisque
oui,
c'est lui qui a fait
le film. Alors, sur sa pensée ou sur ses travaux de paléontologue? Parce que c'est un peu ça aussi la question que je me posais.
Je pense que c'est plus sur ses travaux, mais il doit y avoir quelque chose sur la pensée. En Chine, je suis moins sûr. Mais pour ce qui est de sa pensée, c'est les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, j'avais noté ça aussi.
Parce que je constate, c'est que c'est
l'Italie,
encore...
L'Italie aussi, je viens de citer...
Un France. De ces penseurs chrétiens, notamment, qui n'ont pas vraiment trouvé leur place en France, mais qui, finalement, ont trouvé toute leur place et toute leur grandeur, si on peut dire. En tout cas, leur grandeur a été reconnue aux États-Unis. Sa pensée et ses théories, est-ce qu'elles sont aujourd'hui, selon vous, des clés de compréhension du monde actuel et notamment des crises que nous traversons dans un peu tous les domaines? Denis Avril.
Oui, je crois tout à fait. Tu as fait poser un certain nombre de questions donc vis-à-vis de la religion, mais aussi de l'avenir du monde. Alors, comme le disait Joseph, il y a ce mouvement après l'évolution et un peu ce mouvement divergent qui a créé toutes ces plantes, hommes, animaux, etc. La pensée de Teilhard, c'est de dire que l'homme est appelé, en faisant des efforts de ce qu'ils appellent l'amorisation, c'est-à-dire l'amour entre tous les hommes, donc leur rassemblement, à converger vers ce qu'il appelle le point oméga, qui est en fait le Christ pour lui. Voilà. Et qui est donc, au lieu d'une divergence, on arrive à une convergence. Alors, on s'aperçoit que pour l'instant, malgré tous les essais qu'il y a eu à cause des guerres, la SDN, puis l'ONU, toutes ces organisations internationales.
SDN, c'est Société des Nations, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce que c'était, la SDN.
Merci.
Donc l'ancêtre de l'ONU.
Voilà. Alors, malgré tous ces essais, ben, ça n'arrête pas les guerres. Et on le voit en ce moment avec toutes les divergences qu'il peut y avoir et tous les conflits qui sont en train de naître, où on croyait...
Y compris en interne dans notre pays.
Ben, oui, absolument. Qu'on n'en est pas encore là, bien entendu. Mais l'espoir est là, et effectivement, on peut penser qu'un jour, il y ait effectivement cette prise de conscience mondiale et cette sorte d'amorisation où il faut travailler en commun pour l'avenir de l'univers, finalement. Hein, parce que maintenant, lorsque les religions sont nées, et notamment ce qui est à l'époque du Ancien Testament, au Nouveau Testament, on ne savait rien. On croyait encore que la Terre était plate, etc. Donc, parce qu'on n'avait pas les éléments. Maintenant, on sait que nous sommes dans un univers. Donc l'homme a quand même un rôle aussi dans l'ensemble de l'univers, un peu de créer cette convergence. Voilà, voilà un peu la pensée de Teilhard de Chardin à la fin, quoi, c'est vers ce point oméga.
Pardonnez-moi de poser une question un peu de béotien, je pense, mais quand vous dites l'humanité convergerait vers le point oméga qui serait le Christ, ça veut dire le Christ en tant que modèle, le Christ en tant que point d'arrivée, qu'est-ce qu'il entend par là, Teilhard de Chardin?
Oui, pour moi, c'est le Christ en point d'arrivée, c'est-à-dire une sorte de fusion qu'on pourrait dire des âmes, finalement. Tout le temps, et il dit, mais ce n'est pas une fusion qui fait qu'il n'y en a plus qu'un, c'est chacun reste avec son âme et c'est une fusion vers un objectif commun, finalement, vers l'au-delà.
Ça correspond à la phrase de Saint Paul, tout récapitulé dans le Christ. Donc cette notion de Saint Paul, qui est une notion théologique un peu complexe, pour Teilhard, elle se réalise, j'allais dire presque matérialise, dans le fait que toute l'humanité est rassemblée dans le Christ par ces individualités qu'on respecte les unes les autres et qui sont valorisées par elles-mêmes et par rapport aux autres aussi. C'est ça, c'est une convergence. Alors, pour les mathématiciens, c'est une convergence vers l'infini, puisque c'est tout le monde en parallèle qui montons.
Je parlais tout à l'heure des décrets de compréhension que pouvaient nous fournir la pensée et les théories de Teilhard de Chardin. Il y a un domaine, je pense, où vraiment aujourd'hui, il serait important de connaître les théories de Teilhard de Chardin, c'est l'intelligence artificielle, justement, ou aussi ce qu'on appelle l'homme augmenté. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes scientifique, contrairement à moi?
Oui, je crois que... Alors, je ne sais pas quelle serait sa réaction à Teilhard de Chardin. Mais pour lui, ça ferait partie de l'évolution de l'homme. D'ailleurs, le fait dire l'homme augmenté,
c'est bien ce que je vois, moi.
C'est l'évolution de l'homme. Mais finalement, alors, ça aura forcément des inconvénients, des avantages, comme ont eu toutes les nouvelles technologies. Hein, l'aviation, qui est mon domaine professionnel.
Teilhard a vécu assez longtemps, puisqu'il est mort en 55, pour connaître la bombe atomique et les dégâts qu'elle pouvait faire.
Exactement. Alors, c'est à la fois une avancée considérable, l'énergie nucléaire,
oui.
Mais à la fois quelque chose d'abominable. D'abominable et terrifiant. Mais toutes les inventions, l'aviation, c'est le transport, c'est la facilité que les gens ont à se connaître. Donc pour arriver à l'amorisation, il faut arriver à se connaître. Mais d'un autre côté, il y a aussi des avions qui bombardent. Hein. Voilà. Donc je crois qu'il faut toujours voir dans une nouvelle technologie le plus et le moins, effectivement, éviter le moins autant que possible et puis profiter effectivement du plus. Notamment, je dirais, on mettrait l'IA dans la pensée de Teilhard en disant, en lui demandant de la mettre à la portée de l'homo moyen, si je puis dire, ben, ça ferait certainement avancer la pensée. Et donc c'est ça qu'il faut voir, il faut voir les choses.
On se rend compte que c'est un penseur extrêmement moderne finalement, en tout cas très adapté à notre époque et à ses enjeux.
Pour Teilhard, je pense que l'IA, ça serait un des outils de la noosphère. Parce que dans la noosphère, il a défini qu'il y avait trois types de systèmes qu'il fallait mettre en place. Hein, des systèmes sociaux, des systèmes symboliques et des systèmes artificiels. Les systèmes artificiels, c'est tout ce qu'on rajoute à l'homme pour améliorer, j'allais dire, ses performances physiques, on va dire, hein, ou intellectuelles. Donc l'IA, ben, ça serait un bout d'amélioration. Parce que l'IA permet d'automatiser. Hein, c'est surtout ça, c'est pas intelligent, ça automatise. Donc l'intelligence reste chez l'homme, c'est l'homme qui a l'intuition, c'est l'homme qui a des idées nouvelles, c'est l'homme qui peut imaginer. L'IA, c'est pas autre chose que quelque chose d'automatique, donc ça veut dire quelque chose qu'on sait déjà, qu'on met dans la machine. Ça permet le progrès parce que ça, c'est un peu comme on est en train de monter un mur, bon, on a une brique, et bien on la met dans le mur, voilà, et l'homme, il faut toujours qu'il monte ce mur.
Parlons maintenant du cercle de lecture, du groupe de lecture que vous animez, auquel vous participez l'un et l'autre, à l'Institut catholique de Toulouse. D'abord, des détails très pratiques. Quand ont-elles lieu ces séances de lecture et où précisément? Quand on dit à l'Institut catholique, c'est où?
Ah oui, non, ça a eu lieu à l'Institut catholique de Toulouse. Hein.
Donc c'est pas toujours la même salle, en fait.
Non, c'est pas toujours la même salle, mais enfin, on l'a sait à l'avance, et bon, on commence bien à connaître où sont les salles, et on a très souvent la
Donc
même salle.
Donc c'est une fois par mois?
C'est tous les premiers lundis du mois, à 16h. Bon, des fois, quand le lundi tombe mal, effectivement, qu'il est férié, ça tombe sur un...
Il lundi de Pâques. Voilà.
Donc c'est un principe, donc pendant 10 mois de l'année, puisqu'on s'arrête pendant les vacances. Quoi.
Oui, alors, à ce sujet, je voulais dire que si on a ces horaires-là, c'est parce que l'assistance, et la présence, enfin les activités, malheureusement, nous sommes que des personnes anciennes, retraitées. Si on avait suffisamment de jeunes, à ce moment-là, on pourrait créer un groupe jeune. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais faire, moi. C'est créer un groupe jeune et à ce moment-là, on ferait les réunions le soir. Et d'ailleurs, on avait commencé... À partir du moment où on a fait notre colloque sur l'évolution, là, j'ai eu quelques volontaires pour démarrer un groupe de lecture pour les jeunes, mais on était peu nombreux, on était trois, donc c'est un peu trop juste. Là, je fais un appel à volontaires pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés, qui nous fassent signe, et à ce moment-là, on pourrait monter un groupe jeune et faire ça le soir.
Alors, on va y revenir, bien sûr. Et je voudrais savoir comment ça se passe, vos séances. Il y a un sujet précis à chaque fois qui le détermine. Et puis, comment la parole circule ensuite? Vous débattez, en fait, chacun commente. Il y a un extrait qui est lu et puis vous commentez tous.
Voilà, alors on choisit un livre, une partie donc, des œuvres de Teilhard de Chardin. Et on va l'étudier pendant un an ou un peu plus. Si c'est, par exemple, le phénomène humain était très important, ça risque de durer un peu
donc,
plus d'un an.
Donc, il y a un thème sur une année,
c'est
ça.
Ah, oui. Voilà, oui. Et on se donne comme objectif pour la réunion prochaine de lire et de bien comprendre une partie, tant de pages en fonction de la difficulté du passage. Et après, pendant la réunion, il y a un animateur qui a été désigné, qui a donc préparé et envoyé à l'avance un texte aux autres et qui lance le débat et on discute de tel ou tel passage. Et si on a des difficultés d'interprétation ou des différences d'interprétation, ce qui enrichit,
c'est ça qui est
intéressant, qui est très bon, effectivement, on en débat. Et voilà. Et après, il y a un compte-rendu qui est fait à partir du document initial. Quoi.
Donc, vous publiez vos réflexions, enfin, est-ce qu'il y a un site ou
C'est entre nous.
C'est vraiment entre vous.
Ouais. Hein. Il n'y a pas de site.
On vous est 10 aujourd'hui?
Oui.
Ce qui fait quand même...
On a été beaucoup plus nombreux par le passé. On a été une vingtaine, voilà, par le passé.
Mais pour que tout le monde puisse s'exprimer, il ne faut peut-être pas être trop nombreux non plus.
C'est vrai.
On fait des tours de table.
Parce que le but, c'est que tout le monde puisse participer.
À 10, il n'y a aucun problème, là.
Quel est le profil des personnes qui s'y réunissent? Alors, je sais que ce sont des retraités, ça, j'ai bien noté. Mais est-ce que ce sont souvent des scientifiques ou est-ce qu'il y a aussi des littéraires ou des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre?
Je crois qu'il y a de tout. En fait, nous avons des scientifiques dans nous deux, mais il y a aussi des littéraires. Et donc, justement, c'est un peu ce qui fait la richesse des débats. Alors, les scientifiques...
Oui, parce qu'il y a des approches qui vont être différentes.
Les scientifiques puis, comprennent bien parce que c'est
une recherche,
scientifique.
C'est
lié à l'histoire de chacun. Et donc chacun met, puisque nous sommes un peu expérimentés, pour dire âgés, voilà, eh bien chacun a son vécu. Moi, je pense à Katrina, par exemple, qui nous explique comment elle ressent les choses, alors qu'elle n'est pas ni scientifique ni littéraire. Vous voyez, ça, c'est intéressant, ces échanges-là.
Et une autre question que je me posais, est-ce que tous les participants de ce groupe sont chrétiens?
Non.
Croyants?
La réponse, c'est non. Tout le monde n'est pas chrétien.
Mais ils sont en recherche, souvent.
Oui, enfin, j'imagine mal que quelqu'un qui soit athée ou même agnostique puisse s'impliquer dans un groupe comme celui-ci sans avoir quand même un questionnement, une recherche personnelle, spirituelle.
Ça correspond à une recherche personnelle et spirituelle. Ouais. Et l'intérêt de Teilhard, c'est qu'il part d'abord de choses factuelles. C'est scientifique. Là, on ne peut pas discuter. Et ça, c'est appréhendable par tout le monde. Et donc, pour les gens qui sont en recherche, eh bien, on regarde. Teilhard, c'est une réponse à plein de questions, parce que Teilhard aborde le Christ universel qu'à la fin de sa pensée. Parce que l'anogénèse, par exemple, eh bien, il ne dit pas c'est le Christ. On est toujours avec l'esprit. Donc, c'est la fin qui est importante.
Voilà. Denis Avril.
Oui, je disais que dans le groupe, il y avait une personne qui est plutôt d'obédience bouddhiste, quoi. Voilà.
Mais ça, donc, oui, ça ne m'étonne pas.
Donc, il y a une recherche. Ça aide à la recherche. Et nous-mêmes, chrétiens, d'ailleurs, ça nous fait évoluer aussi. Hein, je veux dire,
Alors, vous parlez des jeunes. Vous aimeriez partager la pensée, l'œuvre de Teilhard auprès des jeunes. Moi, j'ai pour ma part le sentiment que même son nom leur est inconnu, parce que ce n'est pas un auteur dont, d'ailleurs, moi-même, à l'époque, bon, ça date un peu. Maintenant, quand j'étais étudiant, lycéen, on n'entendait pas parler de Teilhard de Chardin. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en entend parler encore moins. Vous avez déjà eu, je suppose, l'occasion d'essayer de faire de la vulgarisation auprès de jeunes. Quand vous dites Théière de Chardin, le nom leur dit quelque chose ou pas du tout?
Non, très peu. Nous avons fait l'exposition, parce qu'avec le colloque, on a une exposition. On a fait cette exposition à l'école de Purpan. Eh bien, les jeunes découvraient tout, là. Absolument tout. C'est net. Il y a très peu de jeunes...
Et quelle est leur réaction lorsque vous leur exposez la pensée de Théière? Ça les intéresse ou ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ce sont des illuminés.
Je posais la question à un séminariste qui venait d'être ordonné prêtre. J'avais invité à la maison. Et puis, il dit, bon, est-ce qu'on vous parle de Théière? Parce que déjà, si les jeunes non chrétiens n'ont pas entendu parler, bon, ça peut se comprendre. Mais on nous l'a évoqué, on nous a dit qu'il n'était plus d'actualité.
Mais alors, dans quel sens il serait plus d'actualité? C'est ça un peu mon questionnement.
Ah, pour moi, il est toujours d'actualité, je veux dire.
Parce que, évident qu'il est d'actualité.
Jusqu'à toute l'évolution et la suite, quoi. Mais je crois que si on n'entend pas parler aussi, c'est que je crois qu'il n'est pas caractérisé, parce qu'il est à la fois scientifique, philosophe et théologien. Alors,
on a du mal à le mettre dans une case.
Ben voilà.
C'est un peu comme Pascal.
Tout ce qu'il a appris à l'école, au collège et même dans la suite, c'est il y a la philosophie, bien sûr, il y a la littérature, mais l'intermédiaire n'est pas. Et le scientifique, c'est uniquement apprendre les sciences. C'est pas vraiment avoir un éclairage extérieur sur la science, quoi.
Il est difficile à mettre dans une boîte. Voilà. Les gens n'aiment pas ça. Il est un peu comme, je reviens, il est un peu comme Blaise Pascal. C'est-à-dire que quelque part, il est un peu apologétique. Hein, ça, c'est vrai, puisque il défend la foi partout. C'est un scientifique, comme vient de dire Denis. C'est un spirituel, avec son traité sur le milieu divin. Donc, c'est une réflexion spirituelle. Donc, il est difficile à mettre en place. Et donc, c'est aussi notre difficulté, à nous, de ce groupe, à se mettre quelque part, parce que les gens veulent des boîtes bien identifiées.
Moi, je crois que ce serait intéressant d'organiser une conférence, ou peut-être une série de conférences à la paroisse étudiante de Toulouse, par exemple.
Totalement.
Là, normalement, vous auriez un public pourrait être adapté.
Totalement. Et je pense que là, les oreilles sont grandes ouvertes, parce que les idées de Théière, quand même, qui proposent des choses qui sont des pistes de réflexion par rapport à la société actuelle, comme on disait tout à l'heure, eh bien ça...
Et à ses enjeux.
C'est une réponse à l'angoisse existentielle.
Moi, je crois qu'un jeune chrétien d'aujourd'hui qui suit des études scientifiques, logiquement, devrait s'intéresser à un moment donné à Théière de Chardin.
Ah, absolument.
Sans forcément adhérer à tout, mais en tout cas... Ouvrir les livres et puis voir un peu ce qui s'y raconte.
Voilà. Et puis, il faut quand même penser aussi une chose, je tiendrai à dire, c'est que d'un point de vue philosophique, il a un regard de phénoménologiste sur la société. Ça, c'est très important aussi.
Bon, nous allons devoir conclure cette émission. En tout cas, l'appel est lancé à la paroisse étudiante. Le sujet n'est pas simple, mais il est vraiment passionnant. La pensée de Théière de Chardin mérite d'être mieux connue et je tiens le pari que certains de nos auditeurs auront envie d'aller y voir de plus près à l'issue de ce numéro. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté vos lumières sur Théière et son œuvre. Je rappelle que votre groupe de lecture se réunit les premiers lundis de chaque mois à l'Institut catholique de Toulouse. C'est à 16h.
Oui, nous avons un mail et le mail c'est asso.theyar.toulouse@gmail.com.
Merci encore. Ce numéro était animé par Éric Dupré à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de rester fidèles à Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.